Il y a des phrases, sujet, verbe, complément, basique. Mais il y a aussi des phrases ornementées avec accessoires, pronoms, adverbes, adjectifs, voire des conjugaisons, des coordinations et des inversions. Bric-à-brac et mots en stock, ça fait une langue.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Au service de la langue, il y a les linguistes, les écrivains, les académiciens, les acteurs, les hommes et femmes politiques parfois, pas toujours. Et il y a Grand Magasin, un duo d'artistes que l'on peut voir actuellement dans le cadre du Festival d'automne à Paris, qui est le plus grand festival interdisciplinaire d'Île-de-France, avec un spectacle intitulé « Grammaire étrangère ». Bonjour Pascal Murtin.
Bonjour.
Bonjour François Hiffler.
Bonjour.
Depuis 1982, ça fait quand même 37 ans, vous mettez en scène les mots... Rien que les mots, on peut dire ça comme cela ?
Oui, sauf qu'on n'est même pas obligé de dire qu'on les met en scène, en fait, on les prononce.
Vous les prononcez, il n'y a presque pas de mise en scène.
Oui. Presque pas.
Peut-être.
Ouais. La mise en scène, c'est juste une répartition
de
assez
paroles.
Équitable de paroles.
Entre deux personnes dans l'espace, disons.
Et quelques mots écrits, parfois.
Et parfois quelques mots écrits.
Et en même temps, le langage prend toute la place, prend toute la scène, comme si les mots étaient le fruit d'un émerveillement perpétuel chez vous.
C'est un peu ça, oui, mais en fait aussi, on a un petit problème de méthode parce que tous les mots viennent à nous en même temps, donc il faut faire le tri.
Et pourtant, on ne peut en prononcer qu'un seul à la fois, c'est toujours le dilemme. Je ne puis prononcer qu'un seul mot à la fois, et il y en a tant qui viennent à mon esprit.
Mais... comment est venu cet amour des mots ?
Nous avons, je crois, au début, en 1982, tenté de faire quelques pas dans le domaine chorégraphique et nos incapacités conjuguées, ainsi que notre paresse, nous ont rapidement repoussé vers la parole plus que par le geste et que vers le geste. Et je crois que c'était en plus un goût déjà tout à fait partagé sans que nous le sachions puisque nous ne nous étions pas encore rencontrés.
Mais pour autant, vous n'êtes pas acteur.
Vous le dites.
Mais alors vous êtes quoi ? Parce que vous n'êtes pas linguiste, vous n'êtes pas homme et femme politique, vous n'êtes pas vraiment acteur, vous n'êtes pas davantage prof.
Nous fabriquons des spectacles, disons on fait de la scène tout de même.
On a souvent dit que nous avons dès le départ essayé de réaliser des spectacles auxquels nous rêverions d'assister sans avoir justement eu la chance de les voir, avec les moyens qui étaient les nôtres, c'est-à-dire pas grand-chose, avec peu de savoir.
Et avec un certain dégoût de la virtuosité. On a quand même des espèces de repoussoirs.
Oui, vous dites que vous cherchez le spectacle invisible. C'est paradoxal quand même.
Peut-être le spectacle minimum, disons. En tout cas, quelque chose qui serait à la fois stimulant, intéressant, voire émouvant ou amusant, mais en offrant le minimum de choses à voir, à entendre.
Entre sérieux et farfelu, vous préférez quel mot, Pascal Murtin ? Sérieux, farfelu ?
Bah, ni l'un ni l'autre.
François Hiffler ?
Sérieux, absolument.
Vous avez donc fondé Grand Magasin avec cet amour des mots, avec ce désir de prononcer tous les mots en 1982. Pourquoi ce nom de Grand Magasin au singulier ?
Précisément parce que l'idée était de construire des spectacles, des choses, des propositions, de faire des propositions à du public à partir d'éléments qui soient communs, disons qu'ils soient le plus commun possible à un grand nombre de personnes.
Donc grand.
Un grand nombre et commun, donc et c'était un stock géant, un stock accessible, c'était un magasin, un grand magasin.
Où on trouve tout.
Voilà.
Comme aux galeries.
À relativement bon marché.
À relativement bon marché, ça c'est une autre référence à un autre grand magasin parisien. Mais alors, c'est compliqué de vous nommer, parce qu'on dit pas les grands magasins.
On dit grand magasin.
On dit grand magasin. Donc bonjour madame grand magasin.
On dit bonjour Pascal.
Et bonjour François. Donc vous êtes un peu des représentants de commerce de la langue française et de toutes ces fantaisies ? Ou des gros consommateurs.
Nous essayons d'en faire du commerce, mais ça, c'est totalement annexe.
Voilà.
Oui, des représentants tout court, peut-être.
Des représentants tout court. Est-ce que les dictionnaires sont vos livres de chevet?
On aime bien les dictionnaires, mais on les feuillette pas tous les soirs pour s'endormir.
Dans quelle est votre matière? La parole quotidienne? Pour le plus grand nombre, du plus grand nombre?
Le français, effectivement. Le français qu'on prononce tous les jours.
Oui,
et
je crois
décortique.
Nous avons en commun une attention à ces paroles que l'on prononce effectivement quotidiennement, parfois plus rarement, mais quand même relativement souvent, et à toutes les occasions de trébucher ou d'être dans une relative incompréhension, les quiproquos, les pas de côté.
Pascal Murtin, François Hiffler à la liste des amoureux de la langue. J'ai envie de rajouter Alex Baupin, nouvel album, Pas plus le jour que la nuit.
Pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts, j'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts, je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi ai-je croisé ta route? Qui donc a fait de moi ce petit tas de doutes? Est-ce toi? Et pourquoi faut-il que tu t'en foutes, que tu me laisses là? N'entends-tu pas? Écoute, mon cœur tambour qui bat annonce ma déroute. Infini, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix.
Pas plus le jour que la nuit, le nouvel album d'Alex Baupin sur RFI, avec immédiatement une question pratique que je veux vous soumettre, Pascal Murtin et François Hiffler. Doit-on dire plus ou plus?
Ça dépend des régions.
Donc c'est juste une question d'accent. Mais ça dépend des phrases aussi.
Ça dépend, oui.
Alors par exemple,
je n'ai pas plus mal que toi.
Mais nous sommes...
Plus volontiers, ça aurait dit plus volontiers que je n'ai pas plus mal que toi. D'ailleurs, je le dis plus volontiers, non pas plus volontiers.
Mais en même temps, plus, si on ne prononce pas le S, ça peut être la conjugaison du verbe plaire. Pas plus.
Oui.
Ça ne m'a pas plu.
Ça ne m'a pas plu.
Ouais, il n'a pas plu.
Et il n'a pas plu non plus.
Ça, c'est la pluie.
Ça, c'est la pluie.
Oui. Et alors, tout de suite, voilà, on est devant un abîme. Dès qu'on on se met à écouter, à imaginer les différents sens qu'un mot peut avoir, et c'est un peu ce que vous faites depuis une trentaine d'années.
C'est une joie. D'un seul coup, c'est tout un tas de terrains qui s'ouvrent par un seul... la pluie, le plaisir.
Et j'imagine que les gens qui apprennent le français, et il y en a des milliers, des millions qui nous écoutent actuellement, sont confrontés à ces interrogations. Quand on est étranger, on se dit pourquoi on dit beaucoup plus ou beaucoup plus ou, enfin...
C'est vrai qu'il serait beaucoup plus simple d'avoir juste des verbes non conjugués et puis des noms. Et puis on ferait comme on peut sans s'occuper de conjugaison.
Mais ça serait un peu un appauvrissement peut-être.
Ce serait peut-être circuler sur une route lisse et sans aspérité. En fait, ce qui nous passionne avec cette entreprise de grammaire étrangère qui consiste à considérer notre propre langue comme si elle nous était étrangère, c'est justement de se concentrer et de s'émerveiller des aspérités.
Et des cailloux.
Des cailloux, voire des failles.
Vous dites même du miracle de la langue maternelle.
Oui, car elle nous a été donnée, elle nous a été, pour ainsi dire, imposée, mais de façon totalement par capillarité, quoi.
Par immersion.
Par immersion, sans que nous nous apercevions même que nous l'apprenions.
Et sans réflexion sans particulière.
Exactement.
C'est donc tout le sens de votre spectacle Grammaire étrangère que vous présentez en ce moment. C'est en fait une série de conférences, on peut dire ça comme cela, dans des amphithéâtres où se retrouvent d'habitude les élites.
Exactement.
La Sorbonne.
Voilà.
Et moi, je vous ai vu au lycée Louis-le-Grand où toutes les têtes les mieux faites font leur scolarité.
Effectivement.
C'est un peu étrange
et
de vous retrouver
ont,
là,
ils ont aussi des cours de théâtre.
Le théâtre classique, je suppose. Étrange, en tous les cas, assez stimulant pour nous. Et c'est effectivement extrêmement flatteur que nous ayons pu avoir la parole dans un lieu traditionnellement dédié à la transmission de véritables savoirs. Puisque ce que nous offrons, nous, c'est ce que tout le monde sait déjà. Nous le proclamons, d'ailleurs.
C'est notre mot d'ordre, en fait.
Oui, c'est le mot d'ordre. Tout ce que nous disons, vous le savez déjà. Nous le savons déjà.
Mais alors, pourquoi venir vous voir si c'était pour le plaisir?
Eh bien, est-ce que parler, ce n'est pas utiliser des mots que nous avons déjà utilisés?
Une confirmation.
Est-ce qu'un poème n'est pas justement la confirmation que nous trébuchons sur ce que nous savons déjà?
En tout cas, vous voulez inspecter tous les mots du français?
Nous prétendons.
Il y en a 60 000.
60 000. Ça, c'est dans la version large, hein, parce que le français usuel, c'est un peu moins, c'est à peu près
quelques
milliers, la moitié, oui, à peu près 30 000. Donc 60 000, c'est vraiment l'ensemble du vocabulaire. Mais c'est l'œuvre d'une vie, en fait. C'est pas en 6 conférences que vous allez expédier l'affaire.
Non.
On va même se dépêcher un petit peu vers la fin.
Est-ce que tous les mots vous intéressent de la même manière vous préférez les adverbes, aux adjectifs, que sais-je?
Je crois que nous avons pris une attention particulière sur les mots dits outils.
Au début, surtout.
Qui sont peut-être des prépositions, des adverbes. Enfin, nous essayons de ne pas nous attacher à la fonction officielle du mot, mais à son usage individuel. Par exemple, de, à, par, pour, maintenant, jamais,
ici.
Et tous ces mots nous ont fascinés par le fait qu'ils étaient à la fois extrêmement concrets, parce que ici est compris immédiatement comme l'endroit où je me trouve actuellement, mais en même temps ne signifie rien en dehors du langage. Alors qu'un nom commun va quand même désigner par exemple un buffle ou un rhinocéros.
Ne parlons pas du nom propre.
Et un nom propre va désigner peut-être une personne. Donc il y a sur ces mots outils, ces mots presque abstraits, mais finalement extrêmement concret, une fascination qui appuyée chez nous. Ensuite, on va s'intéresser aux autres par catégorie, donc les noms, les verbes, donc ça va aller plus vite.
Donc vous nous proposez, nous spectateurs, hein, bien sûr, d'être un peu comme les étrangers de notre propre langue, d'y voir un peu les fantaisies, les choses trappes et l'émerveillement de ce langage. Est-ce que ce spectacle est né de votre présence aussi à Aubervilliers, puisque vous dirigez dans cette banlieue parisienne où 70 nationalités cohabitent, un lieu de création qui s'appelle les Laboratoires d'Aubervilliers, et dans cette ville on parle toutes les langues et un français parfois plus original que celui qu'on peut prononcer ici derrière un micro.
C'est notre deuxième casquette, mais à Aubervilliers nous ne sommes pas en tant que grand magasin, nous sommes en tant que Pascal et François, en tant que personne, et s'intéressant à la langue, effectivement.
Accompagné de Margot Videcoq, d'ailleurs, nous sommes tous les trois. Mais cela dit...
Mais en même temps, il y a une porosité, quand même.
Oui, voilà. Cela dit, le programme que nous avions proposé pour ce lieu était intimement pétri de toutes nos préoccupations.
Il s'intitulait « La mosaïque des lexiques ».
Voilà.
On y reviendra. Et quand les étrangers, en tout cas, parlent le français, ben, ça peut donner ça.
Je m'appelle Ursula Lampe-Dorschausenberger.
C'est pas facile à retenir, ça. Vous m'appelez?
Mais vous aussi, vous m'appelez beaucoup, monsieur.
Merci.
Jouer bête, c'est facile. Mais jouer neutral, neutral, c'est entre le yin et le yang. Et j'ai essayé de faire mon mieux. C'est vertical, c'est neutre.
Il y a des fois, pendant mon spectacle, je veux vous mentir. C'est normal, il y a des fois où je veux vous spolier. Du verbe spolier.
C'est très difficile, la mode ou le vêtement et la politique. Mmh. Si c'est bien, c'est pas bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien non plus. Alors, je préfère m'abstenir parce que franchement, il n'y a rien à faire.
Parce que j'avais entendu parler que tu me voulais comme intervieweur.
Exact.
J'avais le désir que les gens te connaissent, pourquoi tu es si attachante. Alors, est-ce que tu peux commencer par le commencement ?
Où l'on aura reconnu un extrait du Cornu avec Bourville, Jean-Claude Van Damme, Karl Lagerfeld et Jane Birkin. Je trouve qu'il y a une saveur à l'erreur, et vous en jouez d'ailleurs dans votre spectacle, Pascal Murtin et François Hiffler. Très beaucoup, trop beaucoup, en fait, vous expliquez que ça ne peut pas se dire, bon, sauf si on est Jane Birkin.
C'est ça.
Les erreurs vous intéressent?
Oui, comme je disais tout à l'heure, comme caillou sur le chemin.
Les erreurs révèlent à quel point le droit chemin est arbitraire, en fait, aussi. Comment se fait-il que j'ai appris que je ne devais pas dire très beaucoup? Pourquoi ne le dis-je pas? En fait, ce mystère du « je ne dois pas », ce qui vient scander souvent nos séances par le « ne se dit pas », et n'est pas dans un sens de
Ah, c'est pas un interdit.
C'est pas un interdit, mais c'est encore une fois un étonnement. Comment se fait-il que là je m'arrête? Comment se fait-il que là je considère que ça ne fait pas partie du jeu, que c'est hors jeu?
C'est comme si son pull, on l'avait mis à l'envers et donc la capuche est devant ses yeux, donc ça.
Dans ce spectacle, dont vous nous donnez finalement au cours de cet entretien un peu des éclats, parce que ce que vous racontez là se dit aussi sur scène dans ce spectacle Grammaire étrangère, cette série de conférences. Vous avez commencé par ici, vous en parliez, François Hiffler, tout à l'heure. Et alors, après ici?
Il y a maintenant.
Maintenant.
Comme une main qui tient. Main tenant.
Donc il n'y a pas d'ordre logique ou alphabétique.
Au début, c'est dans le complet désordre.
Voire dans le vrac le plus total. En fait, on s'est assez rapidement rendu compte que nous n'avions aucune méthode, aucun système.
Donc, mais c'est un peu donc marabout, bout de ficelle, selle de cheval, etc.
Oui,
etc.
Oui, oui. Et parfois même par pur caprice, je crois que c'est ce qui ressemble peut-être, ce qui vient ressembler au mode d'apprentissage, puisque en fait on n'apprend pas les mots dans l'ordre, quel qu'il soit, mais on les apprend comme on les entend, au gré des rencontres, des accidents.
Ici et maintenant, puisque c'est le début, c'est quand même relativement logique, puisque
c'est logique.
Vous faites du théâtre aussi, et que le théâtre est quand même le lieu de l'ici et maintenant, et puis c'est hic et nunc, c'est un peu la philosophie, et vous la titillez aussi dans ces spectacles.
Eh bien, il est difficile de s'intéresser au langage sans titiller la philosophie.
Et vous titillez aussi la chanson, Pascal Murtin à la guitare.
Je lis leurs doigts, je lis leurs doigts, leurs doigts gelés. Qu'est-ce qu'il fait froid? Fait froid. leurs doigts gelés, gelés, leurs doigts.
Texte et musique, Pascal Murtin, ce sont des poèmes un peu disjonctés que vous écrivez et qui sont, alors j'ai pas vérifié pour celui-là, mais qui sont notamment regroupés dans un livre intitulé « Au désolé mio ». C'est donc une variante de cette chanson napolitaine qui est devenue à la fois l'air des gondoliers et le tube des ténors du monde entier, « Au solé mio ». Et ces poèmes, vous les avez composés dans une situation très particulière.
Oui, au sortir d'un traumatisme crânien. C'est-à-dire, j'avais perdu le langage, justement, et je ne mettais plus les mots dans le bon ordre. Et je ne les retrouvais même plus du tout. Et donc, ce livre correspond à les débuts de réapprentissage, c'est-à-dire des phrases très courtes qui n'ont l'air de pas avoir grand-chose à dire, ni à faire, ni à... Et puis ensuite, peu à peu, ça s'est un peu organisé. Et j'ai récupéré tout ce qu'il faut. Et je les ai mis en chanson par facilité et par plaisir.
Donc en fait, dans ce livre, on assiste au réapprentissage du langage.
C'est ça. Sans commentaire.
But en blanc, chemin de fer, pont-levis. Premier poème de Au désolé mio. C'est aussi le premier poème que vous avez écrit ?
Absolument.
Et de cette expérience traumatique, parce que ça doit être quand même terriblement stressant aussi de perdre le langage, surtout quand on en a fait son métier, parce que c'était pas il y a 40 ans.
C'est très énervant.
C'est très énervant, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que de cette expérience-là est venue l'envie encore plus de vous accorder toutes les libertés avec le langage et de décorseter peut-être la langue?
Pas vraiment. Je continue cette habitude et ce tic. Et sinon, je continue. Je continue à me tromper.
Sans vous tromper vraiment.
Sans me tromper vraiment, mais je ne fais rien pour me corriger.
François Hiffler, est-ce que vous aussi, sans avoir eu cet épisode-là traumatique, vous avez eu, peut-être en étant aux côtés de Pascal, le sentiment qu'il fallait faire bouger les frontières dans la langue et finalement faire de la poésie, on évoquait la philosophie, mais s'il faut vous étiqueter ce mal français, est-ce que ce n'est pas poète qu'il faudrait dire ?
Alors c'est plusieurs questions à la fois. C'est vrai que j'ai accompagné, j'ai eu la chance et la malchance d'accompagner Pascal dans cet épisode difficile, mais passionnant même pour l'entourage. Et c'est vrai que cette préoccupation qui nous était déjà commune du vocabulaire, de l'attention aux mots, s'est décuplée de par cette situation, et que peut-être, effectivement, une attention au mot solitaire, alors qu'avant, on cherchait plus du sens, on cherchait à dire des choses intéressantes ou amusantes, surtout le long de phrases. Une attention à chaque mot en tant qu'objet étrange
comme une
est apparue.
Perle aussi.
Oui, et alors en cela, je pense que un chemin vers la poésie s'est ouvert, enfin officiel de la poésie, vers la poésie officielle, qui était peut-être déjà là, mais qui devient. Qui peut s'appeler poésie, c'est ouvert.
S'amuser avec la langue, débusquer des sens cachés, refaire l'histoire des expressions, c'est ce que nous faisons toutes les semaines, tous les mercredis, dans De Vive Voix, avec Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Pascal.
La puce à l'oreille, votre chronique, c'est une expression et c'est...
Ça vous embouche un coin.
Un coin? Un coin comment?
Un coin de table, on ne sait pas. Et bien précisément, c'est Daniel Lacotte que je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui qui va tout nous dire, puisqu'il a récemment fait paraître aux éditions First un nouvel ouvrage intitulé « Métaphore, je vous aime » ou « Le dico des belles images » et qu'il y évoque entre autres cette expression que j'affectionne particulièrement, je dois bien l'avouer. Il y en a d'autres qui ne finissent pas de nous emboucher un coin, et bien ce sont nos apprentis linguistes à l'imagination débordante. Cette semaine, c'est la classe de Delphine Pereira-Souza dans le 17e arrondissement de Paris. C'est parti.
Ça
veut dire rester dans un coin et pas bouger.
Bouger un mur parce qu'on veut le bouger parce qu'on n'a pas assez de place.
Que ça veut dire que le nez est bouché.
J'en fais qu'une bouchée.
Ça veut dire de s'énerver.
Par exemple, il lui donne une punition et elle lui dit de rester dans un coin et de pas bouger jusqu'à manger.
Ça veut peut-être dire qu'on se cache dans un coin du boucher.
Ça veut dire que... on s'attendait pas à ce que la personne nous dise ça.
Parce que ça nous rend bouche bée. On bouge plus, on n'en revient pas.
Ça veut dire qu'on est jaloux et qu'on se met dans un coin parce que sa maman s'occupe de quelqu'un d'autre et pas de soi.
Des fois, quand il y a des personnes qui sont très très fâchées, on a l'impression qu'il y a de la fumée qui sort de leurs oreilles et c'est bouché.
Alors, Daniel Lacotte, est-ce que vous êtes bouché des oreilles ou alors est-ce que vous êtes dans un petit coin du boucher? Qu'est-ce que vous pensez des propositions?
Moi, bon, c'est formidable déjà. Vous savez, je suis un peu un habitué de votre émission. Oui. Je trouve ça à chaque fois merveilleux parce que c'est pas forcément faux quand elle parle du boucher. Ça s'écrit pareil. Ce sont vraiment des homophonies. Bon, enfin,
boucher
bref,
un mur. Voilà. Bon. Et le coin.
Tout le monde va au coin.
Sauf qu'il ne s'agit pas de ce coin. De quel coin s'agit-il?
Alors,
c'est pas le fruit.
Voilà, ce coin. En l'occurrence, ce coin, c'est pas du tout un coin qui est carré, si j'ose dire, ou une équerre. C'est un moule qui servait à faire les pièces et les médailles autrefois. Donc c'est vraiment... Un moule rond. Alors voilà, voilà, vous avez raison Lucie, il est rond ce moule, et d'où l'analogie possible, le coin étant rond, ce qui est très drôle en soi, hein, le coin étant rond, c'est l'analogie avec la bouche.
Hein, la rond, bouche comme ronde, la bouche, comme la bouche ouverte.
Qui serait ouverte. Et alors, ce qui est fabuleux, vraiment, c'est qu'un des enfants qui ne parle ni du boucher, ni de je sais plus quoi, dit... on est bouche bée. Donc, la bouche ouverte, la bouche en cul de poule aussi, qui veut effectivement dire qu'on est surpris, qu'on est stupéfait, qu'on est en catalepsie.
On est stupéfait au point que ça vous cloue le bec.
Alors, ça cloue le bec. Alors, ça, c'est le contraire un peu.
Alors, la bouche bée, on est stupéfait et on garde la bouche ouverte,
ouais.
Un peu niaisement.
Voilà.
Alors que quand ça nous embouche un coin, eh ben, ça nous ferme la bouche.
Et ça nous ferme la bouche.
Alors, c'était une expression qu'on utilise en général quand on a cloué le bec à son interlocuteur parce qu'on a dit quelque chose de très pertinent.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'interlocuteur ne sait plus quoi dire.
En tout cas, en Allemagne, on retrouve bien cette même idée de clouer le bec.
Ah, probable, oui. Alors là, je sais que vous êtes très forte en la matière. Et à chaque fois que je viens, je me fais piéger parce que vous me dites, et en Allemagne, et en Angleterre.
En Angleterre, figurez-vous, c'est un peu plus violent. On reçoit une claque sur la gueule. Alors là, bon,
carrément. Ouais.
Carrément.
Carrément. Ouais.
En Italie, on reste de plâtre. Je trouve que c'est assez drôle pour les Italiens. On aurait pu rester de marbre, mais non, on reste de plâtre.
Oui.
Et en République tchèque, on étourdit quelqu'un tant on a un raisonnement pertinent.
Alors, j'ai remarqué aussi que, justement, dans les pays slaves, et ça, je sais pas du tout pourquoi, leurs expressions sont souvent un peu alambiquées. C'est toujours des trucs un peu... Je sais pas pourquoi.
Pantois stupéfait et époustouflé, vous m'avez cloué le bec, mon cher Daniel, avec votre érudition. Merci d'être venu nous rendre visite dans La Puce. La semaine prochaine, nous vous retrouvons pour une autre expression. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient vous réécouter, ils peuvent bien sûr retrouver La Puce ainsi que toutes les précédentes sur le site de RFI Savoir. Savoir avec un S. À bientôt, mon cher Daniel.
Merci, Lucie.
Merci à tous les deux, et c'est l'heure de nous clouer le bec collectivement à tous les trois, Pascal Murtin, François Hiffler. Mais je suis sûr que cette expression « boucher un coin », vous n'avez pas dit votre dernier mot. Ça vous évoque quoi, François Hiffler?
Oui, ça m'évoque... Enfin, tout a été dit, hein, mais ça m'évoque...
Même coin-coin.
Et le fait qu'une bouche...
Et le canard.
Une bouche est une ouverture, et qu'elle puisse être bouchée.
Pascal Murtin, François Hiffler, merci beaucoup. Grammaire étrangère se joue donc dans le cadre du Festival d'automne jusqu'à 4 décembre avec un prochain rendez-vous le 14 octobre à l'École supérieure du professorat et de l'éducation au Batignolles. C'est dire si c'est sérieux. Et puis vous finirez au Centre Pompidou avec une conférence qui s'appellera Révision. À noter aussi votre livre, Pascal Murtin, Au désolé Mio, publié au petit matin dans la collection des grands soirs. On se retrouve demain.